Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
En direct du Bénin, l'émission s'appelle Regarde ailleurs. L'idée, c'est de rencontrer des gens un peu partout dans le monde, dans différents pays, et de découvrir leur vision du monde, la réalité dans laquelle ils ont grandi. Donc là, je suis avec Léonce devant moi. Donc je m'intéressais à toi, Léonce, à savoir un peu qui tu es, ce que tu fais, mais déjà, pourquoi Léonce? Ça vient d'où ce prénom?
Tout d'abord, Léonce. Léonce, moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire, Léonce. C'est un prénom de calendrier qu'on m'a donné. Mais je préfère plutôt vous donner mes vrais prénoms. On m'appelle Gbetogo Gbenansou. Gbetogo Gbenansou, c'est toute une histoire. Le prénom Gbetogo, ça signifie que c'est à cause de l'homme. C'est grâce à l'homme qu'il a existé. Et Gbenansou, ça veut dire, tu ne seras pas le seul. Il y aura plusieurs enfants après toi. Gbe veut dire la vie. Nansou veut dire la vie sera nombreuse.
Mais donc ici, au Bénin, le prénom est très important. Chaque enfant a un prénom qui lui est propre à sa naissance, donc un prénom de calendrier, mais aussi un prénom qui va rechercher ses racines dans l'origine culturelle.
Absolument, parce que ici, lorsqu'on parle de prénom, le prénom d'un enfant, ça doit raconter l'histoire de l'enfant, ou bien raconter l'histoire d'une personnalité de sa famille. Et lorsqu'on n'appelle pas son prénom, il a une vibration. Il a la chair de poule normalement. Donc, les prénoms qu'on nous donne sur le calendrier vraiment ne reflètent rien. On ne comprend même pas le sens. L'enfant ne sait même pas ce que signifie son prénom. Mais lorsque vous l'appelez par son prénom traditionnel, son prénom local, ça a un sens. L'enfant se reconnaît. L'enfant se retrouve dedans. Et quand on l'appelle, tous ceux qui sont à côté de lui en même temps savent de quoi on parle.
Donne-moi des exemples concrets de prénoms qui existent ici dans la communauté béninoise ou togolaise, parce que c'est la même culture, ces deux pays, vous êtes très proches les uns des autres. Des exemples de prénoms qui veulent dire quelque chose de fort, qui peut-être nous, occidentaux, va nous étonner.
Super. Par exemple, quand j'ai déjà donné mes deux prénoms, Gbetog ou Gbenansou, il y a par exemple Yenawa. Yenawa qui veut dire « ils viendront vers nous ». Ils viendront vers nous. Et ça, par exemple, si je prends le prénom Yenawa, c'est plusieurs personnes peuvent l'expliquer de différentes façons. Ça dépend de l'histoire qui a prévalu pendant la naissance de la personne. Soit c'est lorsque la maman et le papa de l'enfant se sont rencontrés et les deux parents ne sont pas entendus. Soit c'est le parent du papa de l'enfant qui a supposé que cette fille-là n'est pas digne de leur garçon. D'accord? Donc, et comme ça, l'enfant est né dans la famille de sa maman. Du coup, quand l'enfant naît, il peut lui donner le prénom Yenawa. On les attend. Il viendra nous voir parce que c'est leur enfant. Ouais? Donc, un enfant chez nous finit toujours par aller chez ses parents dans la maison paternelle. Et on finit toujours par aller rechercher si l'enfant est de votre sang. Ou un jour, vous serez en train de faire des consultations comme ça. Ou bien, lors d'une cérémonie, on va vous dire, vous avez abandonné un de vos progénitures quelque part. Le FAP peut vous révéler ça. Donc, vous devez aller rechercher l'enfant et le ramener dans le juron familial. C'est pourquoi les parents maternels là-bas donneront à l'enfant le nom Yenawa. Ils viendront la rechercher.
Mais alors toi, par exemple, tes enfants, comment tu les as appelés? Comment est-ce que tu as choisi leur prénom? Si tu as des enfants, je ne sais pas.
Très bien. Moi et mes enfants, dans ma vie, moi, j'ai beaucoup galéré. Mais souvent, beaucoup, j'ai dit tout a été grâce dans ma vie. Tout a été grâce dans ma vie. Et moi, mon enfant, mon premier enfant, je l'ai surnommé Pédétin. Pédétin qui veut dire, il y a grâce. Il y a grâce. Il y a grâce à rendre pour tout ce qui nous arrive dans la vie. Pé veut dire grâce. Pédétin. Et l'autre, je l'ai nommé Pékédé. Tout est grâce.
La grâce, c'est beau de mettre de la grâce dans son existence et dans sa vie. Tu dis, Léonce, que tu as beaucoup galéré. Ça veut dire quoi pour toi, galérer? Quelle est la définition de quelqu'un qui galère ici au Bénin?
Ici au pays, quelqu'un qui galère, c'est quelqu'un qui a déjà commencé ses études sans support, sans soutien. Et des parents, je ne jetterai pas de l'opprobre sur mes parents. Vous savez, et la question de paternité, la question de la prise de conscience devant les responsabilités parentales plutôt, c'est une question, ça ne vient pas de soi. C'est que tout le monde, à un moment donné, ne se rend pas compte de ça. Ne prennent pas vraiment, ne savent pas qu'ils ont intérêt à prendre leurs responsabilités en main. Du coup, il y a des parents qui commencent très jeunes la paternité ou bien la maternité, donc ils n'ont pas encore conscience véritablement. Moi, je suis né lorsque mon papa avait 17 ans. Je suis né lorsque mon maman avait 14 ans. Du coup, je suis né des parents très jeunes qui n'avaient pas encore vraiment ancré dans leur mental la notion de paternité, la notion de responsabilité envers son enfant, tout ça. Donc, du coup, moi, malgré que j'avais des parents, j'étais obligé de faire tellement de petits jobs pour m'en sortir. Déjà, moi, j'ai commencé par faire les cours de répétition lorsque j'étais en 6e, 6e, 5e. Les cours de répétition pour les enfants à la maison, j'ai commencé depuis la 5e. Hein? Et puis après, je devais faire plusieurs, disons, 7 à 8 kilomètres à pied pour aller à l'école tous les matins. À partir de la 5e, j'étais seul dans ma chambre. Je devais me lever seul, me laver, préparer mes repas moi-même et aller à l'école à l'heure. Je me rappelle que je peux compter le nombre de fois où j'ai été en retard à l'école.
Et tu sais déjà que c'était important pour toi d'aller à l'école, parce que tu aurais très bien pu faire l'école buissonnière et rester dans le village à la maison avec tes parents.
Bien sûr, j'avais conscience qu'il fallait aller à l'école parce que il y avait des choses qui me cognaient dans la tête que je voulais changer. Il y avait des réalités auxquelles je voulais vraiment apporter une touche. Et j'ai compris que si je n'allais pas à l'école, si je ne me prenais pas au sérieux à l'école, je ne pouvais pas apporter cette touche à ces choses-là. Parce qu'il fallait que je puisse et d'abord manipuler la langue de Molière, pouvoir parler français, pouvoir écrire, pouvoir échanger en français et en anglais aussi. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis guide bilingue. Je n'ai jamais été quelque part pour apprendre l'anglais, mais c'est l'anglais que j'ai appris de la 6e en terminale. C'est ça que j'utilise pour faire le guidage. J'ai beaucoup d'amis qui ont fait la même chose, mais qui ne peuvent pas parler anglais aujourd'hui comme je le parle. Et donc, depuis ce temps, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'y exerce, je m'y accroche pour arriver là où je suis aujourd'hui.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'éducation est vraiment un facteur de réussite sociale ici au Bénin.
Oui, absolument. L'éducation, c'est capital. C'est vraiment capital. Si vous prenez Gérard, par exemple, vous prenez des amis que vous voyez là, s'ils n'avaient pas pris conscience de l'éducation, de facteur éducation, du fait d'aller à l'école, du fait de se prendre au sérieux et dans leurs études, je ne pense pas qu'ils seraient là où ils sont aujourd'hui. Ils avaient besoin de cet élément qui devait être la clé, qui est la clé de la porte, des portes des réussites de la vie.
Donc j'ai compris dans ce que tu disais qu'aujourd'hui tu es guide touristique, donc avant de me parler de ce que tu fais aujourd'hui, j'ai envie de savoir comment tu as fait pour en arriver là. Donc tu as galéré, comme tu disais, tu as marché pour aller à l'école, tu étais très autonome, très indépendant, jeune. D'où te vient cette force? D'où te vient cette force de vie? Comment tu savais que c'était important d'avancer, de se battre pour quelque part réussir? Et est-ce que tu sais déjà me dire, ou est-ce que tu peux me dire quel était ton rêve à l'époque quand tu étais enfant? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou ce que tu voulais être?
Bon, à l'origine, je voulais être pilote. Lorsque j'étais enfant, tout jeune, je voulais être pilote. C'était mon rêve. Et c'est ça surtout qui me poussait à aller de l'avant.
Pilote d'avion, pilote de voiture?
Pilote d'avion. Je voulais être pilote d'avion et je me suis battu vraiment pour l'être, mais je n'étais pas fort en mathématiques. Je n'étais pas fort en mathématiques parce que j'ai eu la malchance d'avoir un mauvais professeur en mathématiques en 6e.
C'est toujours à cause des autres.
Non, non. Au fait, je ne peux pas dire, excusez-moi quand je dis mauvais, c'est une façon de le dire de façon brutale comme ça. C'est moi peut-être, compte tenu de mes faiblesses, qui le trouve mauvais. D'autres le trouveront bon parce qu'il y a une petite erreur que moi je faisais en mathématiques. Et que mon professeur ne m'a pas permis de corriger. Parce que s'il m'avait aidé à corriger cette erreur, je serai meilleur en mathématiques et peut-être j'aurai réussi mon rêve d'être pilote d'avion. Bon, je peux dire que ce n'est pas dans mon destin, comme on le dit chez nous ici. Quand quelque chose ne réussit pas, tu te dis, bon, ce n'est pas dans ton rêve. Mais l'autre chose aussi, c'est que je rêvais de voyager beaucoup. Vous voyez, c'est lié un peu à mon rêve d'être pilote. Donc, du coup, je n'ai jamais rêvé d'être guide touristique. Mais du guide touristique au pilote, de voyage, vous voyez, le tout s'embrique là. Donc, qu'on veuille ou non, j'ai fini quand même toujours par trouver mon rêve. Parce que être guide aussi, c'est voyager, c'est aller d'un coin à l'autre. Aujourd'hui, je voyage un peu partout, du Bénin au Togo, du Ghana, tout ça. Donc, c'est déjà un peu rentré dans mes rêves. Peut-être que je n'avais pas cette dénomination, je n'avais pas cette facette de la chose. Vous voyez, quand j'ai eu mon CEP, déjà seul, je suis resté pour étudier jusqu'à avoir le BEPC. Après le BEPC, je devais faire le taxi-moto Zemian. Je conduisais Zem dans la ville de Porto-Novo pour avoir de l'argent pour continuer mes études. Et je faisais Zem. Quand je reviens de l'école, je déposais mes kakis, mes affaires, et à 19h pile, je prends la moto, je vais faire Zem dans la ville, je reviens autour de 23h, 1h du matin, je prends mon cahier, je commence par lire mes leçons jusqu'à ce que je m'endorme avec le cahier sur ma tête. Je me réveille le matin à 4h du matin, je reprends le cahier, je relis un peu, je me lave, je vais à l'école. C'est ce que j'ai fait jusqu'à l'université. C'est en 2004 que j'ai arrêté de faire le taxi moto Zem. J'avais déjà ma licence en géographie. Et après, j'ai fait ma maîtrise en géographie, aménagement, option, aménagement du territoire.
Et tes parents là-dedans, est-ce qu'ils étaient fiers de ça? Est-ce que c'était important pour eux de voir leur fils qui va à l'école et qui donne autant d'énergie pour réussir?
Mais comme je vous ai dit, et je n'ai pas voulu jeter de l'opprobre sur mes parents parce que je me suis rendu compte que, au fait, c'est une question de et responsabilité. Vous voyez, le moment où ils ont eu leur enfant, c'était encore très jeune. Ils n'avaient pas encore ancré en eux cette notion de responsabilité. Mais, à un moment donné, ils ont compris. Quand ils ont commencé par grandir, à un certain âge, ils ont compris, oui, ils étaient fiers de leur enfant. Et surtout ma maman, il a fini par beaucoup m'aider pour vraiment corroborer mon ascension.
Belle histoire, Léonce. Léonce, donc tu n'es pas devenu pilote, mais tu es devenu guide touristique. Donc quelque part, tu conduis aussi des gens, pas dans un avion, mais dans une voiture ou sur une moto. Et tu leur fais découvrir un peu ton pays, ta culture. Je m'intéressais à ça, à cet aspect culturel. Qu'est-ce que c'est que le Bénin? Qu'est-ce que c'est qu'être béninois aujourd'hui?
Bon, la question est un peu grande. Bon, je vais essayer quand même de l'aborder. Bon, être béninois... Moi, je prends mon exemple. Moi, pour moi, être béninois, c'est se sentir dans ce pays-là qui est plus, qui a comme base d'ancrage plus la tradition, le vaudon, la culture locale, très ancrée dans le vaudon. Donc, c'est cette personne-là, moi, me sentir béninois, c'est me sentir vraiment accroché, me sentir en phase avec les réalités socio-culturelles de mon pays.
La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Simple.
Quelque chose qui revient beaucoup en Afrique de l'Ouest, notamment au Bénin, au Togo, le vaudou, la culture vaudou. On va en parler un peu plus tard dans cette émission parce que c'est quelque chose qui fait rêver ou que fantasme l'occidental. Le vaudou, c'est sûrement pas ce qu'on s'imagine tout là-bas, loin du Bénin. Ben, qu'est-ce que c'est que le vaudou ?
Bon, le vaudou, lorsque moi je veux parler de vaudou de façon simple aux gens, le vaudou c'est un esprit. C'est un spirituel, c'est du spiritualisme, c'est un esprit, c'est une force surnaturelle. C'est une force surnaturelle. Et nos aïeuls, ils mettent du vaudou dans tout ce qu'ils ne comprennent pas. Ils mettent du vaudou dans tout ce qui leur semble sorti de l'ordinaire, ce qui leur semble extraordinaire, ce qu'ils n'arrivent pas à expliquer. C'est tout ce qu'ils n'ont pas pu expliquer, c'est ça, ils ont déifié. Ils ont appelé Dieu. La foudre, c'est du vaudou chez nous. Le tonnerre, la foudre, c'est du vaudou. Et tout ce qui est métal, hein, c'est du vaudou. La terre, c'est du vaudou. Hein? La terre, c'est du vaudou. Ainsi de suite. Il y a le vaudou dans le serpent, c'est du vaudou. Voyez un peu. Il y a ainsi de suite, il y a plusieurs catégories de vaudou. Mais le vaudou, dans l'entendement, on semble avoir plusieurs types de vaudou, mais en réalité, c'est la même force, hein? Une même force qu'on ne voit pas, invisible, mais qu'on peut invoquer, hein? Qu'on peut invoquer à des fins positives comme aussi négatives. Vous voyez, on peut l'invoquer à des fins positives comme aussi à des fins négatives. Hein? Mais on aurait souhaité qu'on l'invoque plus à des fins positives. Mais vous savez, c'est des hommes qui sont chargés d'invoquer ses esprits, d'invoquer ses forces. Et l'homme, étant ce qu'il est, changeant négativement comme positivement, donc il fait ce qui lui vient à la tête. C'est pourquoi ici, pour choisir les dignitaires qui doivent s'occuper de ses forces, il faut passer par le fa, la géomancie, cette science-là qui permet de détecter, de savoir le vrai du faux. Donc, c'est lorsqu'on contourne ces procédures, qu'on met devant les forces, qu'on met à la place des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Parce que si le fa dit celui-là n'est pas bon, et que les gens, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a la notoriété, parce qu'il a corrompu des gens, on le met quand même à la place, c'est normal qu'il fasse n'importe quoi avec les forces surnaturelles qu'on lui confie. Parce qu'on lui donne, tout l'arsenal possible. On lui confie des forces qu'il peut manipuler comme il veut. Mais s'il n'est pas bien dans la tête, s'il n'est pas été vraiment choisi et n'est pas prédestiné à ça, donc il va dévier. Donc le côté négatif du vaudou, c'est les déviances humaines. C'est les déviances humaines qui amènent ça. Voyez un peu, parce que quelqu'un vient te voir en tant que prêtre vaudou et il te dit, lui là, il a pris ma femme, je veux le tuer, je veux lui faire du mal. Mais normalement, si tu es averti, si tu es vraiment une personne qui a été choisie à cette place-là, tu ne vas pas directement à l'action. Tu vas questionner le vaudou. Tu questionnes. Est-ce que c'est vrai ce qu'on vient de me dire? Et le vaudou te dit, ah non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux faire ce qu'on m'a dit de dire? Le vaudou va lui dire, non, ne fais pas ou bien fais. Voyez un peu ce que vous dites. Donc, si ces personnes-là qu'on a choisies, on a contourné la réalité, on a contourné la vraie procédure pour les choisir, ils font n'importe quoi. Ils font des déviances qui donnent des nombres qui ne ressemble pas à la réalité. Donc,
Mais donc, dans le vaudou, tu parles aussi d'esprit. Donc, on associe des esprits à des pierres, à des animaux, à des arbres aussi. Donc, tout a un esprit.
Ouais, tout a un esprit. Comme j'ai dit, c'est le spirituel. C'est spirituel, tout est lié à des esprits. Même nos morts, nous invoquons leurs esprits. Communiquons avec leurs esprits. Parce que pour nous, nos morts ne sont pas morts. Et pour nous, la mort n'a pas de frontières. Les morts, parce que quand quelqu'un décède, maintenant, il peut passer, il peut aller d'un pays à un autre en fraction de seconde. Il peut voyager partout sans frontières. Ton aïeul peut être là à côté de toi, en train de te regarder. Tu ne peux pas l'écouter, mais il t'entend, il te regarde. Il est fier de ce que tu es devenu. Il peut être à côté de toi, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il n'est plus dans cette peau-là qui te permet de le voir. Mais dans ma tradition, tu peux voir ton défunt parent défunt. Il y a des rituels, il y a des pratiques que tu peux faire, on peut te faire faire. Et quand on te donne la clé, tu peux voir ton aïeul. Tu peux lui parler, tu peux le voir.
Donne-moi un exemple concret d'une expérience vécue, hein, où tu allais voir un vaudou, tu as fait une cérémonie vaudou suite à une problématique. Un exemple concret que tu as envie de me raconter, que tu as envie de partager avec nous dans ton expérience de vie où tu as eu besoin de te relier à ces esprits, communiquer avec eux.
Moi, il faut dire que je n'aime pas me le cacher, je n'aime pas me voir la face. Moi, je suis dans le vaudou tous les jours. Moi, tous les mois, je vais constituer le fada. D'abord, tous les mois. Tous les premiers mercredis du mois, je vais consulter le Fa sur le mois, tout ce qui va se passer dans le mois. Le Fa, c'est la géomancie, c'est comme une science. C'est la science de pouvoir, l'art divinatoire. C'est l'art divinatoire qui te permet de savoir ce qui peut se passer demain, ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer tout de suite, ce qui va se passer après. Donc moi, tous les premiers mercredis de chaque mois, parce que je suis né mercredi. Donc tous les mercredis, premiers mercredis de chaque mois, je vais consulter le Fa. Pour voir dans ce mois sur quel signe je dois marcher. Et je fais les cérémonies, je fais les sacrifices liés à ce signe-là et c'est fini, je pars. Maintenant, vous m'avez parlé de vous parler d'une expérience concrète. Je me rappelle lorsque, comme j'ai dit, je n'aime pas me voir, je n'aime pas me cacher pour le dire. Et je me rappelle parce que beaucoup le font en cachette. Moi, c'est ma tradition, c'est mes vécus quotidiens. Je suis fier d'en parler, je suis fier de discuter avec les gens par rapport à ça. Et je me rappelle lorsque je devais préparer le baccalauréat, lorsque j'allais au bac. J'ai fait le bac 3 fois. J'ai fait le bac une première fois, j'ai échoué. Une deuxième fois, j'ai échoué. Une troisième fois, j'ai dit cette fois, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer au bac cette fois. C'est surtout tout ça qui a fait que beaucoup de mes rêves, je n'ai pas pu atteindre mes rêves. Et là, j'étais obligé d'aller voir un prêtre Fa. J'ai dit, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je veux savoir pourquoi je ne réussis pas au bac. Là, il a consulté, il a dit, là, c'est sérieux. Avant de réussir au bac, il faut que tu te prépares. On te arme, te donne certaines puissances. Et là, pendant à 2 semaines du bac, j'ai commencé les rituels. Donc, je devais aller chez lui. Et il y a plusieurs rituels qu'on a fait. Et il y a d'autres qu'on a fait nuitamment, tard dans la nuit. On a fini les rituels la veille du bac. Vous voyez un peu? Et là, il y a des choses que je dois utiliser qu'il m'a donné. Il y a des cicatrices qu'il m'a fait, des éléments que moi-même j'ai participé à préparer, que j'ai utilisé. Mais moi, je vous dis, lorsque je suis allé au bac, c'est comme si les épreuves étaient devant moi. C'est pas que j'ai étudié, mais c'est comme si j'ai balisé le terrain, quoi. C'est comme si j'ai dégagé tout ce qui était compliqué devant moi mais tout ce que j'ai appris, ça me revenait. J'écrivais de façon aisée ce que j'ai appris.
Donc le vaudou peut vraiment donner une direction, un peu comme une lumière ou comme un phare, aider aux Béninois, ou en tout cas ceux qui le pratiquent, à trouver le juste chemin.
Bien sûr. C'est, d'ailleurs, le vaudou, c'est ça. D'ailleurs. Le vaudou, c'est une lumière. Le vaudou, c'est la réussite. Le vaudou, c'est la richesse. Le vaudou, c'est l'amour. Le vaudou, c'est l'élévation. C'est ça, d'ailleurs, le vaudou. Sauf que, excusez-moi le thème, nos colonisateurs, ils ont bien fait de nous désorienter, de faire en sorte que nous croyons que tout ce que nous avons dans notre tradition, c'est du satanisme, c'est du charlatanisme, c'est du négatif. Donc, ils ont peint en noir toutes nos richesses culturelles. Ce qui a fait que beaucoup d'entre nous se sont désorientés vers d'autres traditions qui n'est pas les leurs. Moi, je dis souvent, pour le caricaturer, vous ne pouvez pas construire votre maison sur le soubassement d'une autre personne. Quelqu'un est là, il a commencé une maison, il a fait un soubassement. Vous venez, vous voulez construire votre maison sur le soubassement de la personne. Vous ne connaissez pas le dosage de ciment qu'il a mis dedans. vous ne connaissez pas le type de barre de fer, le calibre de fer qu'il a mis dedans. Et vous voulez construire votre maison là-dessus. Est-ce que votre maison va tenir? N'est-ce pas que ça va finir par s'écrouler?
Mais ce qui est intéressant quand on arrive au Bénin, c'est que tu parles des colonisateurs qui ont apporté à travers la religion une vision différente, mais la religion, la tradition béninoise est encore très présente. C'est chouette de voir à quel point aujourd'hui on retrouve encore ça, malgré la mondialisation, malgré les échanges entre pays. Voilà, le Bénin reste fier de ses traditions.
Cette tradition vraiment a connu des moments très difficiles, hein, mais il faut dire que c'est une tradition dans laquelle il y a des forces, de la puissance dans les forces qu'il y a dans cette tradition-là. Sinon, on aurait tout perdu. C'est une tradition qui a bravé tous les intempéries liées à l'oppression, liées à des forces qui veulent la détruire. Donc, il faut vraiment louer ces forces-là. Aujourd'hui, si je prends l'exemple au sud du Bénin, aucune loi n'a rien protégé au sud du Bénin. Aucune loi n'a même pas protégé un seul arbre comme ça. Mais vous avez, aujourd'hui, on a des arbres plus centenaires au sud du Bénin. On a des forêts, des reliques de forêts sacrées qui nous permettent d'avoir encore cette aire naturelle que nous avons au sud du Bénin. C'est grâce à la tradition, c'est grâce au vaudou. Si le vaudou n'avait pas fait ça, on n'aurait plus rien au sud du Bénin. Je me rappelle lors du règne du général Mathieu Kérékou pendant la Révolution, on voulait tout détruire. On mettait du sorcellerie dans tout. On voyait de la sorcellerie dans tout. Et il fallait tout détruire complètement. Mais grâce à la puissance qu'il y avait dans ces vaudous, les gens n'ont pas pu les détruire. Les gens n'ont pas pu raser les forêts. Un peu. Donc c'est un peu ce que je peux vous dire pour vous montrer un peu la puissance, les forces qu'il y a dans ces réalités socioculturelles.
Toi Léonce, tu disais, tu rêvais enfant de devenir pilote, mais tu n'es pas pilote, tu es guide. Alors que s'est-il passé? Tu as tout compris la question. Comment on devient guide et pourquoi? Quelles ont été les rencontres ou les synchronicités ou les étapes qui t'ont amené à ce métier de guide que tu exerces aujourd'hui?
Le guidage. Je ne sais pas si je puis dire vraiment que on apprend à être devenu guide. Parce que moi, mon expérience personnelle, être guide, c'est une passion. Parce que si vous allez dans une école pour apprendre le guidage, il y a toujours un problème d'être en phase avec les visiteurs d'abord et avec les réalités que vous voulez expliquer aux visiteurs. Certes, aujourd'hui, on peut aller dans une école pour apprendre le guidage. Mais moi, personnellement, si je prends mon cas, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais rêvé de devenir guide, mais j'ai rêvé d'être pilote. Mais je vois aussi que l'activité de guidage, c'est aussi le pilotage. D'accord? Donc, au début, moi, tout petit déjà, j'avais des correspondants, j'avais des amis, il y avait RFI, je suivais une émission, j'ai oublié le nom, sur RFI, où on donnait des adresses, on avait des correspondances, et on pouvait s'écrire, tout ça. Et moi, à un moment donné, j'ai dénommé l'échange là, parle-moi de chez toi. Et j'écrivais, je racontais à mes amis un peu... comment on fabrique le sorabi, comment on fabrique le lieu de palme. Je racontais un peu les histoires que mon grand-père me racontait. Je leur racontais ça. Et eux, ils avaient les moyens pour venir faire les vacances ici. Moi, je n'avais pas les moyens pour aller là-bas avec leurs parents. Quand ils venaient, ils ont curieux de voir un peu ce dont je leur parlais. Donc, je les amenais pour voir. Je leur expliquais, je leur réexpliquais. Ils prenaient des photos d'antan, de ce temps-là. Ils repartaient. Moi, ils ne savaient pas que je faisais du tourisme. Je n'ai jamais été dans une école pour apprendre le tourisme. Et comme ça, je faisais ça comme ça sans savoir que faire du tourisme.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
La foi en ce que vous faites dans la vie est capitale dans tout ce que vous devez faire. La foi en le nom, parce que je vous ai parlé tout à l'heure quand on en parlait, j'ai employé cette histoire parce qu'on a commencé par parler des prénoms tout à l'heure, au début de notre émission. Donc, les prénoms qu'on donne dans notre communauté sont des prénoms significatifs. C'est des prénoms qui sont chargés d'histoire et de force. Voyez? Donc, ce jeune homme a cru en son prénom. Et a foi en son prénom. Et chaque fois qu'on l'appelle par ce prénom, il connaît ce que ça signifie, ce que ça veut dire.
Moralité, dans la vie, tout est possible, il faut avoir la foi et c'est nous qui créons notre propre réalité. La force est en nous, il suffit d'y croire et d'aller au bout de ses rêves et ses rêves sont possibles.
Donc c'est un peu ce que je veux dire à travers cette histoire-là. Donc nous avons le divin, chacun a un divin en lui. Chacun a un divin en lui. Il suffit de le faire manifester. Et pour le manifester, il faut avoir la foi en cela. Ouais, on n'a pas besoin d'aller à l'église avant d'avoir la foi, non. Ça n'a rien à voir avec l'église. C'est juste quelque chose qui est en vous. C'est une force qui est en vous, que vous devez pouvoir manifester. Vous devez pouvoir lui laisser la possibilité de clore. Voyez un peu. Sinon, il y a des gens qui sont là et ils pensent qu'ils ne peuvent rien, alors qu'ils peuvent beaucoup de choses. Ils ont tout en eux. On a tout en nous. Donc, il suffit de croire et de se battre pour aller jusqu'au bout.
Superbe conclusion, Léon. On a tout en nous, la force est en nous. Merci à toi, merci.
Merci, moi qui vous remercie. Tout l'honneur était pour moi. C'est fait un grand plaisir pour moi de me prêter à vos micros cet après-midi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci à tous pour votre écoute. Le podcast que vous venez d'entendre est extrait de la série Regarde ailleurs, une émission qui donne la parole à ceux que je rencontre sur les routes du monde. Dans le cadre de mon métier de photographe voyageur, j'ai cette chance de pouvoir croiser des gens très souvent inspirés et inspirants. Et j'aime plus que tout leur tendre le micro pour pouvoir leur donner la parole. Belle journée à tous.